Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de se recevoir au téléphone l'artiste de la semaine sur votre antenne, le Lyonnais Jean-Michel Borne. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, on prend beaucoup de plaisir à lire ta biographie sur ton site internet www.jeanmichelborne.com. Ainsi, on y apprend que deux passions te poursuivent tout le temps, la musique et le vélo. Alors, d'où vient cette envie pour la petite reine?
Oh, cette envie, elle vient tout bêtement et tout naturellement, parce qu'il paraît que le vélo, c'est plus que naturel, hein, ça s'oublie jamais, et voilà. Mon père était un fervent cycliste, et voilà, je l'accompagnais quand j'étais adolescent, et cette passion m'a repris très rapidement. Le fait de faire beaucoup de... Je suis musicien et ingénieur du son, je travaille en studio, d'être enfermé en permanence, le besoin d'évasion, et voilà, c'est une bonne drogue, et c'est un bon moyen pour cogiter, d'avoir des bonnes idées en s'évadant et en pédalant.
Ouais. Alors tu parles de vélo et tu cites tous les plus grands qui ont marqué les années importantes de ta vie. Tu parles beaucoup de cyclisme sur route, mais aussi de VTT, sauf que tu es plus acteur que supporter, puisque en 2001, à l'âge de 42 ans, tu remportes un titre de champion de France de VTT. Tu penses que si la musique avait pris autant de place, tu aurais pu embrasser une carrière de coureur cycliste?
C'est sympa comme question. Ouais, je pense... Je pense pas que j'en aurais eu le talent, là, ce titre, bah, c'est ma petite gloire pour moi, mais c'est vraiment, c'était amateur, donc voilà, je pense que j'avais un bon niveau. Après, c'est pas une question de temps, c'est vraiment ces champions-là que j'admire, justement, c'est qu'ils avaient une vraie force, un vrai panache, et puis un réel talent aussi, hein, un réel talent de ces sportifs, comme les grands musiciens qui ont le petit truc en plus. Voilà, donc non, je ne crois pas. Non. Par contre, j'aurais aimé, c'est sûr. Ouais.
Bien, alors la musique à tes débuts a été l'occasion de découvrir et de reprendre à ta façon les artistes que tu aimais, des Beatles, Rolling Stones, en passant par T-Rex, Ten Years After ou Mark Bolan. Avec ton premier groupe, Pinball Wizard, vous reprenez des standards de Creedence Clearwater Revival comme influence. Bon, il y a pas mieux. Ouais. T'as eu l'impression de tomber au bon moment à une période de richesse artistique que l'on n'a jamais retrouvée par la suite.
Ouais, bah, je serais pas aussi élitiste, aussi catégorique dans le sens qu'on est pas, parce que je pense que chaque période a vraiment son lot de choses savoureuses et puis originales,
mais quand même.
Sans être passéiste, hein, parce qu'après, ça fait vraiment, moi j'aime bien regarder aussi devant, maintenant, et puis quand on regarde derrière, on se dit quand même qu'il y a eu des trucs fabuleux. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'être adolescent, de découvrir la musique, à un moment où, il y avait une sorte de créativité un petit peu folle. Très rock'n'roll, avec tout ce que représente dans le terme de rock'n'roll, c'est-à-dire que les gens se permettaient des choses sans trop penser au marketing, ils avaient des idées, ils les balançaient, quoi, il y avait un peu de folie. Mm-hmm. Donc c'est pour ça, je pense que c'était une super période. Donc les gens que tu as cités, c'est évident que ça a permis d'avoir des influences terribles, quoi.
Ouais. Alors, comme chez tous les artistes, il y a une rencontre plus importante que les autres. Toi, c'est celle avec notre ami Pierre Juizhomme, que l'on connaît bien pour son travail avec Christine, enfin pour nous.
Hein. Ouais, bien sûr. Ouais.
Alors, depuis Jean-Marie et les Redoutables, vous ne vous êtes jamais séparés. Pierre, c'est plus qu'un simple musicien. Qu'est-ce qu'il représente pour toi?
Alors, Pierre, pour savoir, depuis très peu, on ne travaille plus ensemble pour des questions. Il travaille sur d'autres projets de manière plus indépendante. Bah, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de choses ensemble, ça. C'est un garçon que j'ai découvert, on était au collège ensemble, avec une passion commune, la musique, et on s'est mis à écrire des chansons, faire de la musique pour des films de pub, etc. Donc il y a un partage, une connivence qui était fabuleuse à cette époque-là, quoi. Et puis Pierre, c'est quelqu'un qui a une plume fabuleuse, donc il sait mettre à profit des bonnes idées littéraires et en faire des très beaux textes qui sonnent musicalement... très habilement après, quoi.
Ouais. Alors, je parlais du groupe Jean-Marie et les Redoutables.
Ouais.
Alors, qu'avec Pierre Juizhomme et Alain Lansard, hein, donc vous avez réussi l'exploit que peu de groupes ont fait, hein. C'est la première partie, le 16 juin 1982, hein, ça ne rajeunit pas, des Rolling Stones au stade de Gerland à Lyon devant
exact.
50 000 personnes, s'il vous plaît.
Ouais.
Alors, jouer juste avant Keith Richards, ton idole, ça t'a fait quoi? Tu peux dire merci à Kent et Star Shooter?
Ouais, tout à fait. Ouais, bah, si tu dois connaître un petit peu l'histoire. L'histoire, en fait, c'est que le maire de Lyon à l'époque était Colomb, Francisque, si je me souviens de son prénom.
Ah oui, déjà.
Et la particularité, c'était que le...
Oh non, en 82?
En 82, ouais.
Oh non. Oh non, il est arrivé après. Ah mais oui, ça c'était
l'ancien. Non, pas Gérard Collomb, son homonyme, je crois que c'est.
Oui, t'as raison, oui.
Par rapport à notre maire actuel, qui est Gérard Collomb.
Oui, c'est pour ça, oui.
Collomb, ouais.
Oui, t'as raison, oui.
Avait donné l'autorisation pour la première fois, parce qu'encore une fois, c'était la première fois que le stade de Gerland ouvrait ses portes pour un concert,
ouais.
Autre qu'un événement sportif.
Un match de foot en Division 2.
Voilà, ouais. Exactement, mais le. Ouais, c'est ça. Et par contre, il fallait que le stade soit. Que le concert soit ouvert par un groupe, évidemment, lyonnais. Et nos grands frères, qui étaient le groupe Starshooter, qui était vraiment emblématique du rock lyonnais à l'époque, ils avaient une véritable aura même nationale à l'époque. Hein. Le groupe a splitté, explosé, je pense un mois avant le concert. Et voilà, donc le truc s'est joué après entre deux trois groupes dont nous faisons partie, qui tenaient à peu près bien la scène à l'époque, et voilà, c'est nous qui avons été... choisi pour remplacer nos amis Starshooter.
Ouais. Alors ça t'a fait quoi alors
donc, grand merci à Kent encore une fois, et ouais. Puis c'était explosion de joie, c'était génial quoi.
Ouais.
Qui se retient de moi étant mon idole et mon maître à penser dans toutes ses façons, c'était fabuleux quoi.
Ouais. Alors, entre 1982 et 1992, date de la formation du groupe Roseland, vous faites vos armes dans la production avec l'achat de matériel et la création d'un studio d'enregistrement.
Ouais.
Vous avez mis de côté vos envies de groupe, il fallait bien vivre ?
Il fallait... Ouais, c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai. Et puis, je pense qu'on s'est rendu compte... enfin, moi, je sais pas... Qu'en fait, cette vie de découvrir un petit peu l'écriture musicale, tu découvres à cet âge-là le studio, comment on arrive à fabriquer toute cette matière, tout ce côté un petit peu coulisses... Mais c'est là d'où provient vraiment les bonnes idées, la richesse. Moi, ça m'a vraiment énormément attiré, quoi. Donc, j'adore le travail de studio, l'endroit où on fait naître un peu toutes nos idées. Voilà. Donc, on a mis plutôt ça en avant. Et puis, voilà. Et puis, il y avait une dureté quand même à l'époque pour se faire connaître de par la scène live. Il y avait peu d'endroits pour jouer. C'était très compliqué. C'était beaucoup plus facile, en fait, par le studio, donc voilà.
Alors, en 1992, je disais, donc vous créez avec Pierre, Alain et Ricardo un groupe Roseland qui obtiendra un succès interplanétaire avec le morceau Le 40e Rugissant. Vous sortez deux albums chez BMG, 4 ans après, que s'est-il passé? Votre label vous a jeté parce que vous n'aviez pas confirmé les ventes du premier album, c'est un peu ça?
Oui, il y a un petit peu de ça. Ouais, non. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu aussi de la réponse que je t'ai formulée juste avant, c'est-à-dire que trop 4 ans après, on était artiste chez BMG RCA, on avait cette chance, et il s'avérait que le premier album que nous avions complètement autoproduit, enfin pas autoproduit, qu'on avait produit nous-mêmes dans nos studios, on avait pu maîtriser toute la chaîne de fabrication, artistique, hein, surtout, les idées. Le deuxième album, la maison de disque a voulu prendre un peu les rênes, et une rencontre, alors par contre, entre parenthèses, fabuleuse, avec un producteur qui s'appelle Mark Wallis, un anglais assez fou, qui a travaillé avec Jagger, avec des illustres personnes du rock. Mais par contre, on s'est vu déposséder de toutes nos idées, de toute notre façon de penser, quoi. C'est compliqué, hein, la bonne alchimie entre arriver à produire soi-même son propre univers musical et puis être entre les mains d'une grosse major qui a besoin de marketer le produit, etc. Donc,
ouais.
On a subi un peu une histoire, malheureusement, un scénario que moult groupes, moult artistes ont connu, quoi. Hein.
Ils connaissent encore, non?
Ouais.
Alors, en 1996, vous sortez avec Pierre votre premier album, Jeune Public, Alberto, Bricolo.
Ouais.
C'est donc pas un hasard si on te retrouve sur l'album du bras droit de Didier Christini, L'Alphabet, sorti l'année dernière, l'homme de Pierre Juisomme.
Ouais.
Vous en avez marre de jouer devant des adultes?
Ouais, mais bon, c'est drôle. Mais, en fait, c'est ça, c'est un peu la fin de cette période maison de disques, etc. Et étant jeune père l'un et l'autre, on s'est trouvé tout naturellement à écrire pour les enfants. À la base, je pense que l'idée c'était d'écrire des chansons pour nos enfants, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait plaire évidemment aux autres. Et voilà, et là on s'est rendu compte qu'on avait un vrai public et puis des vrais professionnels qui nous suivaient sur ce type de terrain.
Ouais.
Voilà.
Mm-hmm.
Donc il y a eu plusieurs petites suites après. On a travaillé avec les éditions Atlas, avec voilà, c'était. Ouais.
D'accord.
Bonne aventure.
Ouais. Alors, la suite, c'est tout d'abord donc la création du studio Anatole avec Pierre Juizhomme, ouais. Un studio encore debout aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Elle a sorti en 2005 de ton premier album studio sous ton nom, Au Café de l'Avenir.
Ouais.
Alors pourquoi avoir attendu autant de temps pour sortir tes chansons sous ton nom?
Bonne question. Oh, y a mille réponses et ouais. Bon, naturellement, je sais pas. C'était à l'époque. Je ne cache pas mon âge, je devais être un bon quadra, donc c'est l'âge où apparemment on se remet en question et on a envie de raconter des choses, on fait un point sur sa vie. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de le faire en chanson, et puis la guitare à la main quoi, voilà, alors... voilà l'envie et de s'exposer scéniquement en live, etc.
Alors, en avril 2006, ta vie va un peu changer parce que après une chute en VTT lors d'une course en Afrique, le verdict d'une septicémie se transforme en leucémie.
Ouais.
Tu t'es battu donc au moins 2 ans contre ce crabe et tu continues à travailler sur tes nouvelles compositions en même temps. Cette victoire contre la maladie, tu l'as dédiée aussi à la musique. Elle t'a permis de tenir le coup.
Oui. Je la dédie à tout ce qui peut être positif dans la vie parce que la vie est fabuleuse et quand on s'accroche à toutes ces choses qui nous font vivre, quand on est en pleine forme et qu'on est plein de vitalité, on se rend compte que dans les moments où au contraire on perd pied de tout ça, c'est ces choses-là qui viennent vous raccrocher tout naturellement à ce qui est vital, quoi. Donc la musique faisant partie dans un pourcentage quand même assez important de ma vie, c'est sûr que ça... Cette sorte de résurrection, je lui dois une bonne part pour une bonne partie, c'est grâce à la musique.
Alors pour combattre la leucémie, tu as eu droit à un traitement que l'on ne rencontre plus guère que chez les coureurs cyclistes. Tu comprends mieux pourquoi Lance Armstrong a réussi à devenir le numéro 1 3 ans après son cancer du testicule.
Ouais, là, voilà, c'est raccourci. Il y a dans le sport pour tout ce que ça représente comme éthique justement naturelle, propre, maintenant. Mais par contre, ce que tu dis avant, c'est exactement ça, c'est que on se rend compte que la vie d'un malade, moi, d'avoir côtoyé le milieu sportif à un bon niveau quand même, je me rends compte que un bon sportif qui est lui en pleine forme, mais par contre en quête de performance, subit quasiment les mêmes traitements que quelqu'un qui est en perte de vitesse et qui est malade, quoi. C'est assez dingue. Et là, on lutte pas pour la même chose, mais c'est un peu fou, quoi. Et c'est un peu antinomique, quelque part, quoi.
Après, dopage, pas dopage, bon...
C'est des sujets...
Voilà,
ouais.
Bien. Que tu veux pas aborder, c'est ça. T'es un vrai coureur cycliste, c'est ça.
Non, parce que justement, moi, j'ai toujours fait du vélo, ce que j'ai expliqué avant, justement pour une soif de jouvence naturelle, justement, on se rend compte que juste en buvant de l'eau, on peut faire des centaines de kilomètres avec ses propres moyens, c'est fabuleux, quoi. Mm-hmm. Maintenant, ce que font les autres, après, qui se retirent, je pense, à utiliser autant de produits illicites que leur Samsung, maintenant, pas pour les mêmes prouesses, hein.
C'est vrai.
Ouais.
Alors, comme je le disais, malgré la maladie, tu composes les premières chansons de ton 12e album studio ici et maintenant, qui est sorti depuis Noël 2011. Des chansons forcément marquées par ces années très difficiles, mais pas seulement.
Ouais. Pas seulement. Alors, la véritable genèse de ce disque, en fait, c'est des chansons que nous avions écrites, Pierre et moi, toujours tous les deux. C'était avant de savoir que j'étais malade, de tomber malade. La suite de l'album Café de l'Avenir, on avait tout de suite embrayé pour écrire un nouvel album. Et il y avait, je sais pas, une quinzaine de chansons maquettées, soit griffonnées, soit déjà un peu enregistrées avec une ligne mélodie, etc. Et puis voilà, après la maladie, je me suis retrouvé dans une chambre série assez longtemps. J'ai réécouté ces titres et ça m'a donné envie de les finir et de continuer l'aventure. Mmh. Voilà.
Ouais. Sur ton site internet, il est écrit, je cite, « Témoigner d'une résurrection, une guitare à la main, c'est maintenant mon credo. Ici et maintenant, pourrait se traduire par « N'attendez pas, profitez de la vie ».
C'est une belle traduction. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle-ci, elle est vachement bien.
Ouais. Alors, sur Ici et maintenant, on retrouve une chanson qui s'appelle « Kate Richard ». Bien évidemment, si on veut.
Ouais.
Sans lui, nous ne serions pas ensemble en train de discuter.
Peut-être, ouais. On en parlait tout à l'heure à l'issue de savoir qu'on avait fait cette première partie à l'âge de nos 20 ans. C'est fou parce que moi, la musique, j'ai découvert ça ma sœur faisait un peu de guitare, gratouillait. Il y a eu un concert des Rolling Stones, j'avais 15 ans à Lyon. On m'a offert la place et ouais, c'était une vraie gifle, quoi. J'ai vu ce mec, Keith Richards, avec cette guitare. Le lendemain, ça y est, c'était parti, hein. J'ai mis tous ces disques sur la platine et donc dans la chanson, on dit, ce qu'on disait avec Pierre, c'est ma vie serait n'importe quoi, mais sans Keith Richards, mais ouais. Bon.
Donc c'est bien ça, nous ne serions pas ensemble en train de discuter.
Non.
Voilà, sans lui. Alors on parlait tout à l'heure de Cristini, comme lui, tu as repris Bella Ciao, le chant des partisans italiens.
Ouais.
Karimouche est venu prêter sa voix sur le morceau. Born est un nom d'origine italienne?
Non, ma mère. Alors c'est la maman. Maman, c'est De Mattei, son nom.
D'accord.
Donc, en fait, ma grand-mère, plus qu'italienne, quand j'étais gamin, me chantait. Elle chantait tout le temps. Famille paysanne, son mari, mon grand-père, donc chantait dans les bals. C'était vraiment les Italiens très vivants, ici de ce milieu rural, mais où tous les samedis soirs on fait le bal dans le village, et voilà. Donc c'est la grand-mère qui l'a transmis ça, ma mère par la suite après, ouais.
D'accord.
Et voilà, donc c'est une des chansons évidemment qu'elle avait cœur à chanter, parce que c'est vraiment les chansons traditionnelles de leur. Alors je suis pas un militant de base, hein, moi c'est pas le côté partisan, bien que. Je trouve que le texte est fabuleux, évidemment, hein, mais c'est plus de faire vibrer le côté la génération générationnelle, ma grand-mère italienne, et voilà.
Alors les profits de la vente de ce nouvel album seront reversés à l'association Laurette Fugain, dont de vie qui lutte contre la leucémie, à travers ce disque et surtout les concerts qui vont suivre. Donc c'est un sacré message d'espoir que tu fais passer. Où en est la recherche médicale contre la leucémie?
Écoute, elle avance. Alors l'association, c'est très gentil de le citer, Laurette Fugain. Donc Laurette Fugain, qui l'association porte le nom évidemment de la fille défunte de Stéphanie Fugain et Michel Fugain, qui œuvre alors plus que pour la recherche. Alors évidemment, c'est une recherche pour le cancer, hein, et ils essaient de financer tous ces, mais surtout pour militer sur le don de moelle. Moi, j'étais sauvé grâce à ça. J'ai eu la chance d'avoir un frère qui était compatible. Donc j'ai reçu sa moelle, c'est le seul moyen pour éradiquer une leucémie. Mmh. Voilà, et cette association œuvre pour le fait d'arriver à communiquer, à dire, ben voilà, toi tu es en forme, mets-toi sur la liste des donneurs potentiels. Alors ça commence par le don de sang, le don de plaquettes, et puis le don de moelle, voilà. Qui peuvent évidemment sauver ses vies de tous ces gens qui sont malades. Et j'ai côtoyé pendant 5 ans.
Bien. Eh ben merci Jean-Michel Borg d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Ouais, ben c'est moi qui vous remercie, Tropic FM.
On est ensemble donc. Rappelons donc que ton dernier album en date, Ici et Maintenant, est sorti en 2011. On peut se procurer où, sans oublier toute ta discographie, différents noms?
Alors on peut se procurer tout simplement à Lyon, chez Planète Disque. C'est un disquaire qui marche sur un principe encore assez bio. Voilà, donc c'est en place entre Lyon. Bon, il n'y a pas des points de vente. On n'est plus sur des réseaux qu'autrement, sur notre site internet. Les commandes, évidemment, sont possibles, aucun problème.
Voilà, www.jeanmichelborne.com, tout attaché.
Ouais.
Voilà. Et le plus important pour nous, tu seras en concert au Transborder Club, c'est ça, hein?
Ouais, alors. Exactement. Voilà. Le Transborder, donc c'est la salle de petite capacité, enfin de plus petite capacité, qui fait 500 places.
Par rapport à l'an, oui, c'est plus petit, oui.
Voilà. Et ben, par contre. Et toujours au profit de cette association, ouais. Donc bon, en fait on fait la fête, hein, on chante des chansons pop rock et voilà, message d'espoir, mais surtout un bon moment à vivre musicalement, je l'espère, pour ceux qui viendront.
Voilà, le mardi 26 juin 2012.
C'est mardi prochain, pile poil, dans une semaine, mardi 26. Ouais.
Voilà, et ben Jean-Michel, bonne continuation.
Hein, oui, ouais,
bon concert et puis
merci.
Et ben à bientôt sur Tropic FM.
Tout bientôt.
Au revoir.
Au revoir.